Gloire à Dieu. On est en train de continuer notre étude sur les différentes positions qu'on a en Jésus. Puis il en reste encore des positions, puis je pense pas qu'on va toutes les couvrir, parce qu'il y en a encore d'autres que... Bien, il y en a encore quelques-unes que je vais parler, mais il y en a d'autres que j'ai pas encore comme dans mon esprit, comme idée, comme révélation. Mais le Seigneur va en montrer d'autres dans la suite des temps, puis on les ajoutera. Ce qu'il faut comprendre dans tout ça, c'est qu'est-ce qu'on a en Jésus-Christ comme capacité, comme appel. Oui, Dieu nous appelle à rentrer dans des domaines qui faisaient pas partie de notre vie. Puis ces nouvelles positions-là qu'il nous donne, ça nous amène à réaliser où ce qui nous emmène, mais on a une responsabilité. Puis aujourd'hui, on va en parler encore sur le point qu'on va méditer ensemble avec des versets de la parole pour nous faire comprendre une autre dimension de ce que nous sommes en Jésus, de cette position qu'on a reçue quand on est né de nouveau. Le titre du message, c'est que nous sommes, grâce au Christ, devenus le sel de la terre. Puis on va voir qu'il y a une c'est quand même fort, puis ça va nous faire réaliser qu'on a besoin du Seigneur. On peut pas le faire par nous-mêmes. C'est vraiment ce qu'on a reçu en Jésus. On n'était pas nés pour être du sel. On était excusez l'expression, parmi le fumier de cette terre. Puis ça, la Bible nous le dit dans des versets qui nous a sortis de là. On puait quand on est venu à Jésus. Il a fallu qu'il nous lave, dans le sens figuré. Il nous a lavé puis nous purifié de toutes nos souillures. On est à loin d'être un sel, puis toute l'efficacité que le sel a, l'importance du sel, on va voir ça en regardant certains passages. Savez-vous que tous les chrétiens sont appelés par Dieu à donner du bon goût dans ce monde? Si ça ne sera pas que les chrétiens sont là, présentement, si ça ne sera pas que les chrétiens sont là, Dieu n'aurait aucun plaisir à tout ce qui se produit sur la terre. Ça sera le même contexte qui s'est produit avant le déluge. La Bible a dit... Toute chair avait corrompu sa voix. Toute chair, même ceux qui marchaient par l'esprit dans ce temps-là. Il dit, mon esprit ne restera pas dans l'homme. Il y avait des gens qui avaient le Saint-Esprit, puis Dieu il a dit, toute chair a corrompu sa voix, puis il dit, les pensées de leur cœur ne se tournaient que vers le mal. Tout le monde était méchant, tout le monde était mauvais. Il n'y avait personne qui avait un goût salé pour donner du goût à cette planète. Au point que Dieu en avait par-dessus la tête, puis il a décidé de tout flocher. Si la planète est encore là aujourd'hui, c'est parce que Dieu a fait un plan extraordinaire pour prendre des gens qui ne méritent rien, puis qui ont été souillés, puis ont été perdus, puis ont été mêlés, puis on faisait n'importe quoi aussi pire que le monde de ce temps-là. Mais il savait d'avance, il était pour le faire, mais il a préparé un plan qu'on puisse être purifié par le sang de Jésus, puis qu'il nous donne une seconde chance. Il nous donne de vivre une nouvelle vie, de repartir à zéro. Puis là, il va mettre de quoi en nous, qui va faire de nous le sel de la terre, pour que lui puisse avoir quelque chose de bon sur cette planète. Ça vient pas de nous, ça vient de l'œuvre de Dieu. Puis merci Seigneur. Jésus le dit à ses disciples dans Matthieu 5, 13, « Vous êtes le sel de la terre. » Puis c'est pas parce qu'on est né sel, c'est qu'on l'est devenu à cause qu'on est disciple de Jésus-Christ, puis qu'on est né de nouveau. Mais là, on a reçu le Saint-Esprit. Puis là, Dieu fait quelque chose en nous pour faire de nous le sel. Il y a plusieurs utilisations bénéfiques du sel au point de vue humain. Là, on peut regarder quelques exemples là-dedans. Comme le sel, ça donne ou ça rehausse le goût des aliments qui sont fades. Il y a beaucoup de recettes qu'on fait, on rajoute du sel. Puis là, le mets est encore meilleur parce qu'il y a du sel. Avez-vous déjà mangé des patates frites, pas de sel? Mais ça, c'est un exemple, mais il y a beaucoup d'autres utilisations. Il y en a qui en mettent sur le blé d'Inde, il y en a, tu sais, il y a toutes sortes dans nos patates, on les fait cuire, puis il y en a qui rajoutent du sel, tout cas. Ça donne un petit goût. Ça rehausse le goût. Ça rend meilleur. Sinon, ça sera fade. Mais la vie, la planète, ça sera la même affaire. S'il n'y aura pas ce sel-là qui a été mis là par Dieu, la planète n'aurait aucun goût agréable pour Dieu. C'est dans cette idée-là que je vous amenais l'idée tantôt. Il y a d'autres choses, que d'autres vertus du sel, comme le sel permet de conserver des aliments périssables. Anciennement, il n'y avait pas de frigidaire, il n'y avait pas d'électricité, puis il y en a qui conservaient leur viande dans du sel. Ça a une propriété d'empêcher le développement des bactéries. Je pense pas qu'une bactérie, ça le tente de nager dans le sel. Mais l'idée, c'est que le sel, c'est une vertu qui conserve, c'est une puissance, c'est puissant, ça agit, ça, c'est une énergie, ça, comme, là, tu mets ça dans ta bouche, tu sens ça, là, ça dégage quelque chose, mais le sel, c'est bénéfique, ça sert pour conserver même, pour empêcher que ça pourrisse trop vite. Le sel est bon aussi pour la terre, j'ai lu ça sur Internet, parce que j'essayais de voir avec un verset que Jésus a dit, puis on va en parler tantôt de ce verset-là, mais que le sel, il était bon aussi pour de la terre. Dans ce temps-là, il n'y avait pas d'engrais chimiques. Puis quand il y avait des mauvaises herbes qui poussaient, ils les brûlaient avec du sel. Fait que le sel a même une propriété de pouvoir détruire le pas bon. Fait que c'est super bénéfique du sel. Nous autres, on l'utilise moins aujourd'hui, mettre des pesticides, puis des herbicides, puis des produits chimiques. Mais dans ce temps-là, ils n'avaient pas. Ils prenaient du sel pour le mettre pour la terre, pour en purifier de mauvaises affaires. Un autre point que j'ai vu en lisant sur Internet, puis c'est j'ai lu ça dans un vieux livre, qui était comme scanné, puis ça, c'était écrit, au lieu de mettre des S, ils mettaient des F dans ce temps-là. Fait que ça a au moins 400-500 ans, cette science-là. Puis dans ce temps-là, ils faisaient ça aussi. Puis ils expliquaient que le sel est important dans le fumier. Il expliquait que quand tu prends un tas de fumier, puis tu le laisses aux intempéries, puis il mouille, l'eau peut laver le fumier, puis il perd son sel qu'il y a à l'intérieur. Puis que c'était nécessaire, ce sel-là, pour qu'il soit efficace, le fumier, dans le champ. Fait que les gens, les anciens, les vieux, les ceux dans ce temps-là, qui n'avaient pas d'engrais chimiques, ils servaient de fumier, mais ils rajoutaient du sel. Quand le sel, le fumier avait été lavé, ils mettaient du sel dans leur fumier pour redonner, pour rehausser la puissance du sel. Voyez-vous, il y a bien des bons points sur le sel. Quand tu regardes ça, le sel, c'est quasiment toujours mis en valeur sur une table. Tu sais, avec un beau petit plat, là, qui met du sel, là, une salière, là. Puis ça accompagne quasiment tous les repas de ceux qui souffrent pas de haute pression, et etc. Mais il y a des places que c'est de même, ça a été comme ça pendant des siècles. Puis il faut dire que la viande que là des siècles, quand ils mangeaient de la viande, elle était pas aussi fraîche, dans le sens, ça se gardait pas longtemps, là. Puis des fois, ils ont été obligés de trouver des épices pour aider à rajouter du goût, voyez-vous. Puis un dernier point, ce que j'ai pensé, mais c'est pas nécessairement les seuls points où ce que le sel y est utile, mais le sel... c'est très utile dans plein de fonctions, dans des bonnes fonctions comme dans des mauvaises. Un des derniers points qu'on s'en sert beaucoup, ça fait fondre la glace. ça paraît pas, mais c'est utile, mais en même temps, ça se peut que ça soit pas utile. Puis ils prennent pas le sel que tu vas manger, le sel de première qualité. Parce que en étudiant la Bible, puis en regardant la vie, le sel ne peut... Le sel peut ne pas avoir une bonne propriété. S'il est, par exemple, mêlé avec d'autres choses. Tu peux avoir une mine de sel, mais c'est mêlé avec d'autres choses. Puis le sel, il est pas assez pur pour pouvoir être consommé. Fait que là, ils vont s'en servir pour des deuxièmes jobs ou troisièmes jobs, les jobs moins bonnes. Comme le jeter dehors pour faire fondre la glace. C'est pas d'hier que ça existe. Ça existe depuis longtemps, mais c'est quand même, faut le savoir, que ça a Là, c'est comme si c'est la dernière place que tu dois t'en servir. Autrement dit, tu le jettes dehors. Ça fait fondre. Dans l'Ancien Testament, dans la parole de Dieu, quand le Seigneur y expliquait de présenter des offrandes à Dieu, les gens y apportaient toutes sortes d'offrandes. C'était pas juste des animaux, mais ils offraient en sacrifice des animaux, toutes sortes d'animaux qui étaient déjà décrits, une liste d'animaux qui étaient permis d'offrir. Mais il y avait aussi des offrandes comme des choses préparées. Il y avait du pain sans levain, il y avait d'autres produits qui étaient offerts. Puis Dieu, dans Lévitique, le chapitre 2, le verset 13, Dieu a donné cette recommandation-là. Tu mettras du sel dans toutes tes offrandes. Tu ne laisseras point ton offrande manquer de sel. Puis ça avait un symbole prophétique quand Dieu a fait ça. Parce qu'il voulait nous faire comprendre, Dieu, que c'est important d'ajouter du sel dans ce qu'on offre à Dieu. Le sel avait son symbole prophétique. Dans ce verset-là, ça dit, c'est un signe de l'alliance de ton Dieu. Le fait d'ajouter du sel. Le gars, il dit, pourquoi j'ajouterais du sel? Je peux amener mon sacrifice direct comme ça. Non. Dieu a dit, tu vas rajouter du sel, puis c'est un signe de l'alliance avec ton Dieu. Sur toutes tes offrandes, tu mettras du sel. Dieu voulait nous préparer spirituellement à la venue de Jésus, puis le fait d'être disciple de Jésus. Vous allez le comprendre quand on va réaliser que nous sommes le sel de la terre. Puis on est devenu sel, c'est parce qu'on est un offrande. On s'est offert à Dieu. Quand on donne notre vie au Seigneur, on dit au Seigneur, « Seigneur, je veux te suivre, je veux te servir. » Bon, mais tu t'engages, tu renonces à toi-même, tu prends ta croix. Tu veux suivre Jésus. Tu donnes comme ta vie en sacrifice à Dieu. Là, tu deviens un aliment salé par Dieu. Puis là, ce sel-là est important qu'il soit là, mais c'est un symbole qui voulait nous préparer que lorsque nous lisons ça aujourd'hui, on va comprendre un peu plus pourquoi que c'est important d'être salé. Jésus nous demande d'être salé. Il nous dit qu'on est le sel, mais ça se peut qu'on perde notre saveur. Puis ça, on va en parler un peu plus loin. C'est un symbole prophétique pour nous révéler que tout ce qui est présenté à Dieu doit avoir été assaisonné de sel pour être apprécié par Dieu. Ça aurait pu être mangeable pareil, même s'il n'y a pas de sel. Mais Dieu voulait nous montrer que un mets sans sel, ça n'a pas de saveur. Ben, il dit, moi, la planète, là, comme qu'elle est, si elle n'a pas de sel, elle n'a pas de saveur. Fait que c'est pour ça qu'il a décidé de faire un plan pour qu'il y ait des gens qui deviennent le sel de cette planète. Puis ça, c'est nous. Le sel n'a pas de mérite d'être du sel. C'est Dieu qui l'a créé. Amen. Le sel ne peut pas se vanter d'avoir ses propriétés de sel. Comme nous, on le sait, on est venu à Jésus, on est né de nouveau à une certaine date. On n'a pas de mérite parce qu'avant d'être né de nouveau, nous n'étions pas du sel pour Dieu. On avait un goût vraiment pas bon, au point de nous vomir. C'est la même chose pour nous. On porte ce titre maintenant d'être le sel de la terre, comme c'est dit dans Matthieu 5, 13. Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, Dieu t'a donné le titre « Tu es du sel ». Tu as le titre. Mais est-ce suffisant d'avoir le titre? Est-ce qu'à cause qu'on a un titre de sel, que c'est suffisant pour goûter le sel? Je peux prendre une bouteille d'eau et dire c'est du sel, mais quand j'y goûte, ça goûte encore l'eau. Tu peux avoir le titre de sel, mais ça ne veut pas dire que ça goûte le sel ou que ça a les propriétés du sel. Est-ce que ça va faire le travail du sel? Non. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent dire qu'ils sont chrétiens, puis ils sont pas le sel. Parce que c'est pas nous qui fait que nous sommes sel. C'est pas nous qui le décide. C'est Dieu qui commence à faire une œuvre en nous, puis il va nous rendre à avoir un goût agréable qui goûte le sel. Voyez-vous? Pour un disciple, il n'y a pas de mérite d'être le sel. D'être du sel, mais il détient sa saveur parce qu'il reste en communion avec Dieu. C'est pour ça que la Bible nous dit d'être rempli du Saint-Esprit. Tu n'as pas de mérite de goûter ce que tu goûtes. Si tu goûtes quelque chose, ça vient de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui va te faire que tu goûtes le sel. Puis tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit pour que ça goûte ce que Dieu va mettre en toi. Si tu veux vivre ta vie chrétienne sans Dieu, tu goûteras pas le sel. Tu peux être chrétien, comme on a parlé au début de la réunion. Jésus dit, je suis avec vous, mais si je ne le réalise pas qu'il est avec nous, puis je mets pas ma confiance pour qu'il fasse qu'est-ce qu'il a à faire, puis je cours à droite pas à gauche comme qu'ils disent une poule pas de tête là. On court à l'aveuglette, on fait une vie en courant mais sans savoir où qu'on s'en va, puis on va pas chercher. Tu peux avoir la foi en Jésus puis t'en aller comme à l'aventure puis mais pas savoir ce que tu t'en vas, tu es en train de faire fausse route puis tu t'en rends même pas compte. Puis tu seras pas sel. Tu peux avoir reçu le titre quand tu t'es converti, mais tu l'es pas devenu parce que tu demeures pas dans la communion avec Dieu. C'est quand tu demeures en communion avec Dieu que là, l'Esprit de Dieu peut faire un œuvre en toi pour te donner le goût que tu dois porter. Voyez-vous? Puis on va le voir dans la suite de tout cela. Dans Galates 5, 22, faut pas oublier que si on devient amour, joie, paix, patient, bon, fidélité, douceur, mais tempérance, là, maîtrise de soi, c'est un fruit de l'Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous rend comme ça. C'est pas nous qui avons le mérite d'être rendus comme ça. Fait qu'il faut apprendre à faire confiance à Dieu, s'en remettre à Dieu. Seigneur, je manque d'amour. Puis là, tu me manques de l'amour. Ou je suis trop dur. Parce qu'on a un caractère dur, puis on est prompt. Mais il faut lui demander de nous donner de la douceur. Puis quand tu vas y arriver, tu vas goûter bon aux yeux de Dieu, au goût de Dieu, tu vas goûter bon parce que tu as laissé le Saint-Esprit venir faire ce goût-là. C'est ça que Dieu recherche. Les propriétés savoureuses du chrétien, ça vient de Dieu. C'est Dieu qui les met en nous par son Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il faut prendre du temps dans la présence de Dieu. Il faut prier Dieu, chercher Dieu. Puis faire confiance au Seigneur qui va agir dans nos vies. Tout ce qui vient de notre chair, là, le péché dans tous ses sens, comme dans Romains 8:8, il dit, « Ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. » Si tu vis selon la chair, tu vas pratiquer plein d'affaires que Dieu veut pas. Parce que notre corps est toujours attiré par des choses que Dieu aime pas. Puis si on se laisse aller, puis on est conduit par notre chair, au lieu d'apprendre à être conduit par le Saint-Esprit, on goûtera pas bon. On goûtera pas le sel. Si on veut goûter du sel, mais il faut demeurer dans la présence de Dieu, puis demander au Seigneur de venir le faire. Puis on va porter tout un autre saveur au goût de Dieu. On veut-tu goûter bon?
Oui.
Ouais. Puis je suis sûr que si je goûte bon, il n'y a pas juste Dieu qui en profite, les autres autour de moi aussi vont en profiter. Si je goûte pas bon, mais ils vont y goûter aussi, puis ils seront pas contents d'être dans ma présence. Voyez-vous, c'est ça, là. Pour qu'un chrétien ait de la saveur, il doit rester connecté avec Dieu. Comme le dit dans Jean 15:5, il dit, « Je suis le cèpe, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » C'est ça qui fait la différence entre une religion et être un vrai chrétien, un disciple. C'est que être une religion, c'est que tu décides d'aller dans une religion. Tu t'en vas dans une religion, dans une église, tu es assis là, tu écoutes ce qu'il dit en avant, puis tu essaies de pratiquer ce qu'il dit. Ça, c'est une religion. Tandis qu'être un enfant de Dieu, être un disciple de Jésus, c'est qu'à quelque part, tu t'es repenti, puis tu as avoué que tu n'étais pas capable de le faire par toi-même. Puis là, tu as dit au Seigneur que tu l'acceptais comme ton sauveur pour être pardonné, puis que tu lui demandes d'entrer dans ta vie, pour que lui vienne faire la sienne, sa vie en toi. C'est là que tu vas commencer à porter du fruit. Là, si tu es en Jésus, puis Jésus est en toi, c'est ça ce qu'il dit dans ce verset-là. Il dit, je suis le cep. Le cep, c'est le pied d'une vigne. Puis vous, vous êtes les sarments, c'est les branches de la vigne. Mais il dit, Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous pouvez rien faire. C'est pas qu'on n'est pas capable de faire de quoi, mais tu peux pas rien faire qui va plaire à Dieu. La seule manière pour plaire à Dieu, c'est faut que tu sois connecté, puis tu sois alimenté par la sève de Dieu. Puis c'est ça qui va faire que tu vas avoir le goût, que tu vas avoir la saveur à travers ta vie en étant connecté. Le Seigneur s'attend à ce que ses disciples glorifient Dieu pendant leur temps terrestre. Oui, on pourrait travailler pour notre gloire, on pourrait travailler pour se ramasser des richesses, on pourrait travailler pour être bien vu, là, pour être populaire, parce qu'il y en a, il y a du monde pour eux, c'est important d'être populaire. Fait qu'ils cherchent à plaire aux hommes. Mais on ne cherche pas à plaire aux hommes, on est là pour plaire à Dieu. On est là pour servir Dieu, on est là pour en avoir plus de ce que Dieu a donné, pour qu'on laisse Dieu agir à travers notre vie. Dans Jean 15, 8, Jésus dit à ses disciples encore, « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Fait que le but de Dieu, là, c'est de venir nous changer pour qu'on ait beaucoup de fruits. Mais le fruit qui vient de lui et non pas moi qui va me forcer puis que je vais faire semblant en mettant des masques. C'est que le Saint-Esprit, quand il est présent d'une personne, il change la personne. La personne, plus que ça va, plus qu'elle ressemble à Jésus.
Amen.
C'est à se poser. C'est ce qu'on va faire. On va s'en aller dans cette direction-là. Nous sommes appelés à tout faire pour la gloire de Dieu. Puis si tu es dans cet état-là, puis tu as reconnu Jésus comme ton sauveur, puis ton but, c'est de tout faire la gloire de Dieu. Mais ta vie va toujours être enlignée vers la bonne place. Tu veux entendre Dieu. Tu veux que Dieu te parle. Tu veux que Dieu te montre des affaires. Tu veux que Dieu vienne changer des affaires. Tu veux que Dieu t'utilise. Tu veux que ta vie porte du fruit pour Dieu. Tu veux que Dieu soit fier de toi. Tu veux que Dieu te regarde puis qu'il soit content de toi. Puis tu veux aussi qu'il te goûte. Ça goûte salé.
Oui.
Il passe une fille. Dans 1 Corinthiens 10:31. Ça nous dit, soit donc vous mangiez, soit que vous buvez, soit que vous fassiez autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Amen. Quand tu marches de cette manière-là, ta vie glorifie Dieu continuellement, puis ça, c'est agréable à Dieu. Dieu, il aime ça. Puis c'est pas étrange, même si vous vous sentez seul dans ce chemin-là, c'est pas étrange de vouloir être comme ça. C'est le contraire. Tout le monde sur la planète devrait être en train de vouloir chercher la gloire de Dieu, à vivre en fonction de la gloire de Dieu. Tout le monde qu'on voit sur la planète, même si c'est un mononcle, une matante, des grands mamans, même si, peu importe qui, tout le monde devrait être en train de vouloir vivre pour la gloire de Dieu. Ça serait que naturel. Puis c'est le but qu'il faut arriver. C'est le but qu'il faut arriver à nous, premièrement, à montrer l'exemple en le faisant. Puis là, les autres qui vont nous regarder, peut-être qu'au début, wesh, mais peut-être qu'à longue, ils vont dire, ouais, peut-être que c'est ça le vrai chemin, puis qu'ils vont avoir le goût de devenir chrétiens aussi. Jésus s'est servi du parallèle entre le chrétien puis le sel, mais sur le côté négatif, pour nous encourager à être positifs, voyez-vous. Afin de nous faire prendre conscience de l'importance de garder la saveur du chrétien. S'il a dit ça à ses disciples que vous êtes du sel, c'est parce qu'il voulait que les disciples prennent conscience puis disent, si je suis du sel, faut que je goûte le sel. Puis si à part moi-même, je suis pas capable de produire, d'être salé, faut que je trouve les moyens. Puis ce moyen-là, ce n'est que Dieu qui peut nous rendre au goût salé. Mais Jésus s'est servi de ça pour faire prendre des consciences. Regardez bien dans Matthieu 5, 13, dans le verset où ce qu'il dit, vous êtes le sel de la terre. Mais, il y a un petit mais, puis des fois c'est un gros mais. Si le sel perd sa saveur, parce que du sel, en théorie, ça ne perd pas sa saveur. En théorie, tu l'as pris, tu l'as dans ta salière, il a passé bien des étapes avant d'être rendu là, supposé de goûter le sel, mais si le sel, il a perdu sa saveur, soit qu'il a été mélangé avec d'autres choses, puis il y a eu d'autres choses à renverser dedans, puis ça sera justement ça le point, pourquoi que du sel pourrait ne pas avoir sa vraie propriété de sel. S'il est mélangé à 75% avec d'autres choses, déjà, il a perdu son goût de sel, puis il goûte aussi d'autres choses. Puis le problème, s'il change de goût, c'est à cause qu'il y a quelque chose d'autre dedans qui ne sera pas supposé d'être là. Puis si tu mélanges du sel avec des affaires pas bonnes, ça risque que ton sel goûte pas bon. Voyez-vous? Puis là, Jésus dit, si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Qu'est-ce qu'on peut prendre à du sel pour y redonner? Qu'est-ce qu'on peut prendre pour ajouter du goût de salé à du sel? Plus de sel, mais s'il est mêlé avec d'autres choses parce qu'il a perdu son goût. Puis c'est compliqué, là. Ça devient compliqué. Comment est-ce qu'on peut filtrer des grains de sel pour... Quand tu es contaminé, là, par d'autres choses, mettons un chrétien qui est supposé de goûter le sel, puis il est contaminé par quelque chose d'autre parce que il y a du péché dans sa vie, il y a des affaires qui n'est pas de Dieu. C'est d'enlever ce qui goûte pas bon. C'est la seule méthode. Trouver la méthode, puis ça, des fois, c'est pas nous qui est capable de le faire, c'est Dieu seul. C'est impossible aux hommes d'arriver à se purifier des fois. Des fois, tu peux faire abstinence, puis réussir à te priver de quelque chose, mais tu forces. Mais quand Dieu te délivre, il t'a délivré, t'es purifié. Mais si ça le perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? L'Église sans saveur n'aura aucun effet positif, ni pour Dieu, ni pour les hommes. Imaginez une Église complète qui n'a plus de saveur de vie de Dieu dans l'Église. Parce que c'est ça. Elle est déconnectée. Parce que pour arriver à avoir de saveur, ça peut arriver qu'une personne a négligé sa communion, a pris plus, puis... Elle vit dans des affaires qui n'est pas de Dieu, elle goûte plus le sel pantoute, mais dans l'Église, l'ensemble de l'Église est là, l'Esprit de Dieu est là quand même. Mais à un moment donné, si la majorité, puis si toute la gang sont rendus tièdes, comme ça dit dans l'Apocalypse, fades, sans sel, puis même peut-être avec du péché qui s'appuie dans toutes les salières, on est comme toutes des salières, là, puis qu'il sera tout mixé avec du pas bon. Dans Matthieu 5, 13, quand tu es rendu une limite comme ça, Jésus a rajouté, il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Du sel de mauvaise qualité, il ne sert plus à sa premier but du sel, c'est de le mettre pour que tu le manges directement. Ça, c'est le meilleur du goût du sel, tu le ressors là. Tu t'en serviras pas pour t'en mettre dans ton assiette, c'est goûte plus le sel. Tu t'en serviras pas pour conserver tes aliments s'il est mêlé avec du sable ou il est mêlé avec d'autres choses. Tu t'en serviras plus pour la majorité de ses usages. Il reste juste à les jeter dehors puis fouler aux pieds par les hommes. Il sert juste à faire fondre la glace. Mais si un chrétien perd sa saveur, il est plus bon pour accomplir sa mission. Ça va plus loin que juste faire fondre la glace. Tu peux même te faire jeter dehors comme tu jettes dans les poubelles. Il est vraiment, il ne sert pas à rien. S'il n'a même plus sa propriété de sel pour faire fondre la glace, il va être jeté dans les poubelles. C'est ce qu'on voit aussi dans un autre verset, dans Luc 14, 34, 35. Jésus parle encore du sel dans Luc 14, 34, 35. Ça doit être dans le même temps où il a parlé dans Matthieu, mais il a rajouté d'autres points dans ce verset-là. Il dit, le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on? Il n'est ni bon pour la terre, ni pour le fumier. Comme je vous disais tantôt, la terre pour brûler les mauvais arbres, le fumier pour rehausser la capacité du fumier, il faisait ça dans ce temps-là. Mais s'il a perdu sa saveur, il ne sert plus à la terre ni au fumier, on le jette dehors. C'est avec l'autre passage que je vais emmener qu'on va comprendre jusqu'à où ce qu'une personne, on dit on jette dehors, jusqu'à où que ça peut aller, parce que c'est pas le but à atteindre, mais ça peut arriver que des personnes finissent comme ça. Un chrétien savoureux, lui, s'occupe de porter de ses fruits. Ça, c'est tous ceux qui veulent goûter bon pour le Seigneur vont s'efforcer à rester intègres, puis à obéir, puis à marcher avec le Seigneur, puis à dépendre de Dieu, puis à y faire confiance. Puis il va porter beaucoup de fruits parce que Dieu est avec lui. Puis là, Dieu établit ces gens-là dans des ministères, dans des tâches, comme dans Matthieu 24, le verset 45 à 47. Tu vas être tellement béni que Dieu va t'établir sur ce qu'il y a. Il dit, quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour donner de la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, le trouvera faisant ainsi. Je vous le dis, il l'établira sur tous ses biens. Lorsque Jésus va revenir, ce qu'il veut voir, c'est des gens en train de servir. En train de servir le Seigneur, puis avoir du bon goût pour le Seigneur. Ils vont être bénis du Seigneur. Le Seigneur va les établir sur tous ses biens. Le Seigneur va être content, puis il va avoir de gros sourires, mais qu'ils reviennent, puis ils vont être fiers. Parce que ces gens-là, ils ont du bon goût. Ils sont appelés les serviteurs fidèles et prudents. Ils font attention à ce qu'ils sont, puis ils font attention à ceux qui les entourent. Ils font attention à maintenir leur communion avec Dieu. Ils sont prudents. Puis ils sont fidèles. Ils veulent marcher dans la foi et dans l'obéissance au Seigneur.
Amen.
Puis c'est Dieu qui les avait établis sur un ouvrage, puis s'occuper des autres, puis ils sont au service du Seigneur, puis ils goûtent bon, puis le Seigneur va les bénir au bout. Mais un chrétien qui a perdu sa saveur, parce que ça l'arrive qu'il y a des chrétiens qui perdent leur saveur, puis ça, il faut être prudent pour pas tomber dans ce chemin-là. Un chrétien qui a perdu sa saveur réagit au contraire à son appel, puis il recevra selon ses œuvres. C'est pas moi qui ai inventé ces versets-là, ils sont là. C'est dans le même verset, mais au verset 48, dans Matthieu 24, 48 à 51. Jésus, il dit, « Mais si c'est un méchant serviteur, c'est un serviteur, mais il est méchant. » Il se dit en lui-même, « Mon maître tarde à venir. » Là, il se met à battre ses compagnons. Il mange et boit avec les ivrognes. Le maître de ce serviteur viendra le jour où il s'en attend pas, puis à l'heure qu'il ne connaît pas, puis il le mettra en pièces, puis il lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs, des grincements de dents. Voyez-vous ce qu'on... Jésus, c'est pas pour rien qu'il a donné cet exemple-là, parce qu'il savait qu'il y a des gens de ses serviteurs, des gens appelés, qui marcheront pas prudemment ni fidèlement. Fait que les gens, par méchanceté, ils ont oublié le Seigneur, ou ils savent que le Seigneur est là, mais ils négligent ce qu'ils font, puis ils font tout le contraire de ce que Dieu s'attendait d'eux. Il est rendu ivrogne, il mange et boit avec les gens de mauvaise vie, puis il bat ses compagnons dans violence, dans méchanceté, dans les chicanes continuellement, la guerre avec tout le monde, puis il a pas le fruit que l'Esprit a remis en lui, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Si ça, c'est pas là, c'est... réagir dans la méchanceté, dans la colère, dans les disputes, dans les obstinations, dans les détruire les autres, frapper les autres, réagir, puis vouloir planter tout le monde autour, puis vouloir crier, puis être en crise, puis être en colère, puis dans la méchanceté. Voyez-vous, tous les effets négatifs d'une vie sans Dieu, sans fruit, sans que l'Esprit de Dieu le transforme. Puis il est rendu alcoolique, puis il est rendu drogué peut-être, avec les cigares aujourd'hui. Puis il se tient avec des mauvaises personnes. Ça dit, le maître de ce serviteur viendra le jour où s'il n'en attend pas, à l'heure qu'il ne connaît pas, puis il le mettra en pièces, puis il va lui donner sa part avec les hypocrites. C'est ça, jeté dehors. Quand il dit que le sel a perdu sa saveur, il ne reste plus qu'à être jeté dehors. si tu es un chrétien qui n'a plus de saveur pour Dieu, c'est parce que la présence de Dieu ne se manifeste plus en toi. Mais tu ne sais pas rien. Parce que quand tu vis selon la chair, ça ne peut pas plaire à Dieu. Fait qu'il te prend et il te garoche dehors. Il peut rester à debout dans l'église pendant tout le reste de sa vie, mais le jugement, c'est quand le maître va revenir, c'est là qu'il va, il va rendre à chacun selon ses œuvres. C'est pour ça que ça dit aussi dans l'église, ils vont laisser pousser l'ivraie avec le blé. Ça arrive que dans les églises, il y a des gens qui sont pas vraiment, soit qui sont pas nés de nouveau, ou soit qu'ils l'ont été, mais ils se sont froidis dans leur marche chrétienne, puis ils sont plus connectés, ils vivent plus cette communion-là. Mais, ce qu'on sait, parce que d'autres versets qui en parlent, si t'es rendu là, dans un état de personne méchante, puis qui vit tout croche, puis vit dans le péché, puis tout ça, tu peux encore te repentir. Parce que le jugement, il va être donné à la fin, quand Jésus va revenir. Tant que tu es vivant, tu peux te repentir, puis demander pardon au Seigneur, puis dire que tu réalises que tu es tout croche, puis tu fais des choses qui déplaisent à Dieu, puis tu cries pour avoir de l'aide de Dieu. Puis Dieu va le faire. Dieu va te pardonner, puis Dieu va te renouveler, puis il va te remplir de son esprit, puis tu vas commencer à goûter le sel. Mais pour que ça goûte le sel, il faut qu'il enlève ce qui n'est pas bon. Voyez-vous, parce qu'il a, ce qui a fait part de la saveur, c'est parce qu'il y avait d'autres choses d'ajouter au sel qui changeaient le goût du sel. Mais il faut que Dieu enlève ça. Puis c'est ça que la Bible a dit, est d'être émondé. Il enlève ce qui n'est pas bon. Puis ça, il faut laisser le travail de Dieu se faire. Puis il va le faire parce que Dieu, il est fidèle. Tu réclames de l'aide, mais il va le faire parce que lui, il ne manque pas à ses promesses. Amen. N'oublions pas que l'Église est la seule saveur agréable à Dieu sur cette terre. Nous, des fois, ça c'est beau, ça c'est pas pire, on peut trouver des belles affaires, mais Dieu, lui, c'est lui qui a tout créé, c'est pas ça qui intéresse Dieu. Ce qui intéresse Dieu, c'est des gens qui ont donné leur vie au Seigneur, puis qui marchent avec le Seigneur, qui ont la crainte de Dieu, puis qui aiment le Seigneur de tout leur cœur. C'est ça que Dieu trouve beau. C'est la seule affaire que Dieu trouve beau sur cette terre. Fait que soyons des gens qui aiment le Seigneur, puis qu'on se laisse remplir, puis transformer pour goûter de plus en plus salé. Amen. Jésus nous encourage à mettre tous nos efforts pour conserver notre saveur salée. Dans Marc 9, 50, il dit « Le sel est une bonne chose, mais si le sel devient sans saveur, avec quoi l'assaisonnerez-vous? » Puis là, il dit « Ayez du sel en vous-même, puis soyez en paix les uns avec les autres. » Pour arriver à vivre la paix les uns avec les autres, mais il faut avoir du sel en nous-mêmes. Ce sel-là vient de Dieu. Ce goût salé-là, cet assaisonnement-là, vient de Dieu. Laissons-nous remplir du Saint-Esprit, puis vivons-le. Soyons en paix. Ayons du sel. Veillons à être connectés à Dieu afin de toujours dégager notre saveur, que notre saveur passe à travers notre vie. Dernier verset dans Colossiens 4:6. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Voyez-vous, ça prend de la sagesse, ça prend un savoir-faire pour être capable d'être une bonne personne qui communique avec les autres. On a besoin du sel de Dieu. Prions. Seigneur, je te remercie pour ta parole. Merci pour tes révélations. Merci de nous dire qu'on est du sel, mais je sais que ça vient pas de nous, ça vient de toi. Seigneur, qu'on puisse goûter salé, qu'on puisse avoir un bon goût pour toi et pour les gens qui nous entourent, qu'on puisse avoir pas juste le goût, qu'on ait aussi l'efficacité que le sel produit dans tous ses usages. Seigneur, on veut goûter bon, puis je te demande de venir le faire en nous. Puis pour ceux, Seigneur, qui ont de la misère, qui ont des combats, puis ont Seigneur, guide chaque personne à pouvoir rentrer dans son rôle, puis à dégager cette saveur-là. Bénis-les tous dans le nom de ton fils Jésus. Amen.